Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour et bienvenue dans Mégaphone. Aujourd'hui, nous allons parler d'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire, ce secteur qui regroupe les fondations, mutuelles et associations. Le 30 novembre dernier, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire regroupait des acteurs de la culture pour faire un bilan de la parité dans ce secteur a priori pas plus vertueux que les autres, mais surtout pour mettre en avant des exemples inspirants, des actions, des échanges de pratiques autour de trois témoignages, celui du pôle des musiques actuelles pour son dispositif « Ici c'est cool » de prévention des violences sexistes et sexuelles lors des festivals et événements, la Mutualité française des Pays de la Loire pour impulser la parité dans ses instances de gouvernance et la plateforme qui regroupe les professionnels de l'audiovisuel et qui agit à différents niveaux, comme nous allons l'entendre dans un instant.
Le SS n'est pas si formidable, idéal que ça. En tout cas, ça nous permet de relativiser un petit peu. Alors, pour vous donner juste 2-3 chiffres sans trop vous assommer, aujourd'hui en Pays de la Loire, 7 salariés sur 10 donc, sont des femmes. Et pourtant, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que 8 salariés sur 10 en CDD à temps partiel dans l'ESS sont aussi des femmes. Donc elles sont beaucoup plus, encore plus nombreuses que les hommes et que seulement 5 sur 10 sont des cadres. Donc on est vraiment sur des situation très, très différentielle entre le postulat de départ. Et côté rémunération, on observe un écart de salaire moyen de 19% entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire. Alors du coup, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans le reste de l'économie. On est un petit peu mieux, parce que nous, on est à 22% dans le reste de l'économie. Puis on était à 22% en 2019 dans l'ESS, alors on a un tout petit peu progressé, mais on reste quand même à près de 20%, quoi. Donc on se rend bien compte que cet écart, en tout cas, on a une marge de progression dans l'économie sociale et solidaire en termes d'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes. Mais on se rend aussi compte qu'il y a pas mal de structures qui mettent en place des actions pour progresser et puis pour aller vers davantage d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'était de pouvoir vous présenter des structures qui agissent dans ce cadre-là. Dans le cadre de la lutte contre le sexisme de façon générale, et puis que vous puissiez échanger avec ces structures sur ce qu'elles ont pu mettre en place pour, pourquoi pas, vous inspirer vous aussi, et puis pour que vous puissiez échanger, que ça puisse vous donner des idées, ou en tout cas qu'on puisse favoriser cet échange de pratiques.
On peut y aller ?
Ouais. On est là.
Ok. Je me représente rapidement. Moi, je suis donc Caroline Huguin et je suis chargée d'administration, de formation et référente égalité femmes-hommes au pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, la plateforme en sous-titre, même si c'est pas très parlant. Et donc, notre association est un pôle régional, donc comme la région est composée de plusieurs pôles associatifs culturels, dont le pôle musique actuelle en est un et le pôle cinéma un autre. Et donc nous sommes une fédération des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on regroupe 300 adhérents et une vingtaine de structures qui œuvrent tous dans ce champ-là en région Pays de la Loire. Donc nos principales missions, c'est de fédérer, valoriser les films ou les professionnels qui exercent en région et de pouvoir faire en sorte que notre territoire soit le plus dynamique possible et attire des tournages, des productions. C'est une association qui a été créée en 2013, qui pour l'instant est composée donc à 43% de femmes et à 57% d'hommes, ce qui n'est pas vraiment représentatif de l'écosystème régional, puisqu'en région, les professionnels de l'audiovisuel sont à 75% des hommes et à 25% des femmes seulement. Donc on a un gros déséquilibre dans notre secteur. Après, c'est difficile de parler de moyenne, parce que là, ces 75% sont une moyenne, mais selon les métiers qui sont très différents dans nos activités, il peut y avoir des réalités très différentes. Par exemple, on va avoir plus de femmes qui sont chargées de production, directrices de production. Par contre, beaucoup moins qui vont être sur les métiers dits plus techniques, au cadre, à la caméra ou au son. Elles vont être beaucoup plus du côté de l'administration. Et donc, cette moyenne générale n'est pas du tout représentative de chaque corps de métier en particulier. Les auteurs, autrices, techniciens, techniciennes, comédiens, comédiennes, compositeurs, compositrices, les réalités peuvent être assez différentes. En tout cas, ce qui nous est apparu, c'est que voilà, on est dans un secteur qui est quand même très genré selon les métiers. Et c'est quelque chose qui remontait beaucoup de la part de nos adhérents, des retours d'expérience forcément, avec des expériences sexistes, des discriminations salariales, etc. Et donc on s'est dit qu'il était de notre devoir et de nos missions principales de nous en emparer pour essayer déjà de pouvoir faire un diagnostic sur ce qui se passait chez nous dans nos métiers en région et pouvoir, par rapport à ce diagnostic, penser à un plan d'action pour aller en faveur de l'égalité femmes-hommes et plus spécifiquement de l'égalité professionnelle, puisque nous, c'est notre cœur d'action. Donc on a commencé par organiser d'abord une première table ronde lors d'un de nos événements en 2018, où là il nous est apparu voilà, que la problématique était très importante et qu'il fallait nous en saisir comme d'un axe de chantier transversal dans nos missions. Et on s'est dit qu'on aurait besoin d'être accompagné pour déjà pouvoir établir notre propre diagnostic sur notre structure avant de vouloir diffuser plus largement que ça, déjà balayer un petit peu devant notre porte pour voir ce qui se passait et ensuite aller plus loin. Et pour ça, on a donc sollicité un DLA, qui est un dispositif local d'accompagnement, qui a été financé en partie par la CRES, justement. C'est eux qui ont été nos référents là-dessus. Et également, on a eu un financement de la DRDFE, donc la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Donc grâce à ce DLA, on a pu bénéficier de l'accompagnement de Maud Raffray, qui est, comme elle s'appelle elle-même, une activatrice d'égalité, qui est donc est venue, on a créé dans notre association une délégation. On a fait appel à nos adhérents et à nos administrateurs pour savoir qui voulait faire partie de ce groupe de travail, qui voulait s'investir sur la question. On a eu une douzaine de personnes qui ont voulu participer. Sur la douzaine de personnes, il va y avoir 5 hommes, je pense. Enfin, quand même une bonne, quasiment une égalité. Et ensuite, donc on a commencé par étudier nos propres pratiques. On s'est rendu compte que depuis toujours, on avait justement un bureau et un conseil d'administration paritaire, ce qui était plutôt favorable et ce qui, effectivement, dans les échanges, permettait quand même une certaine ouverture sur ces questions-là. Donc on est parti de nos propres constats, qu'on a ensuite essayé de développer et d'améliorer, c'est-à-dire que dans tous les dispositifs que l'on porte, que ce soit le parcours d'auteur, enfin des dispositifs d'accompagnement des professionnels, on a toujours une attention particulière à ce qu'il soit paritaire dans ses bénéficiaires, également à, par exemple, utiliser l'écriture inclusive. Comme je vous l'ai dit, nos bureaux professionnels, même s'ils sont à 75% composés d'hommes, on les appelle quand même techniciens, techniciennes, etc. Et donc c'est quelque chose qui quand même faisait partie d'une culture commune. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que moi, j'ai participé à ce groupe de travail et j'ai pas eu un sentiment de résistance à ce moment-là. Donc à l'issue de ce DLA, on a construit un plan d'action qu'on a appelé PAF Égalité. Et ce plan d'action se décline en plusieurs volets. Donc il est tout récent parce qu'il a été créé en 2020. Et donc là, ce sont les premières actions qui commencent. Et donc notre plan Égalité, alors, se compose de différents volets. Il y a d'abord un volet qu'on a appelé l'effet domino, qui est le fait de faire infuser les questions d'égalité femmes-hommes à l'intérieur de nos propres bureaux professionnels, donc pour nos adhérents. C'est-à-dire qu'on on a dédié un budget là-dessus où on leur propose de pouvoir... Alors chaque bureau professionnel est responsable de sa programmation. Donc on leur propose, que ce soit sous la forme qu'ils veulent, de pouvoir faire intervenir soit des formateurs, soit des artistes ou autres qui travaillent sur ces questions-là et qui peuvent échanger avec eux sur la question de l'égalité. Par exemple, voilà, pour le groupe des compositeurs-compositrices, il y a très très peu de compositrices à l'image. Du coup, on en a fait venir une qui est venue justement parler de elle, son parcours de femme en tant que compositrice de musique de film, et qui a pu échanger avec eux là-dessus pendant une demi-journée. Par exemple, au bureau des comédiens-comédiennes, là, on a fait un partenariat avec un collectif qui s'appelle Femmes à la caméra, qui est un collectif qui regroupe des chefs opératrices qui du coup échangent sur leur vécu de femmes techniciennes dans le milieu du cinéma. Et elles ont fait un travail intéressant qui a été de regrouper beaucoup de témoignages de femmes chefs opératrices, donc qui parlent à la fois des inégalités salariales qu'elles ont pu vivre, mais aussi des violences sexistes, sexuelles. Et le bureau des comédiennes a décidé de reprendre ces témoignages-là, de se les réapproprier, de les incarner, pour pouvoir les présenter ensuite lors de nos événements. Et dans le cadre de ce partenariat-là, d'ailleurs, on a souhaité aussi intégrer les étudiants en formation initiale. Il y a le BTS de Montaigu, qui est un BTS connu en région, qui forme du coup au métier de l'audiovisuel. Et on les a invités à venir faire une captation de ces témoignages-là pour que les étudiants et étudiantes soient aussi sensibilisés à ce qu'ont été les parcours de leurs aînés, à ce que peut être la réalité professionnelle et à comment justement, en la présentant, eh bien, on peut aussi la modifier. Donc je voulais juste vous montrer justement un petit extrait de cette vidéo donc, qui a été réalisée par les élèves du BTS audiovisuel de Montaigu. Et joué par donc trois comédiennes de notre bureau à la plateforme.
Femmes à la caméra est un collectif joyeux dont nous faisons partie. Un collectif où s'exprime la solidarité dans une culture qui depuis trop longtemps a fait des femmes des éternelles rivales.
Je ne me suis jamais positionnée en tant que femme dans ce métier très masculin. J'ai toujours eu l'impression d'exercer mon métier parce que j'étais moi.
Quelques souvenirs me sont remontés du temps où j'étais assistante. La fois où un perchman m'a expliqué que ce serait mieux que je porte des strings, comme ça ce serait plus agréable à regarder quand je me baisserais. L'obligation de faire la bise tous les matins en arrivant sur le plateau.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir envisagé le fait que cela pouvait être plus difficile pour une femme, je le jure.
Les histoires salaces, qu'on me racontait à l'oreille pendant les installations. Une fête de fin de tournage. Où un autre perchman avait essayé de m'embrasser de force. Et c'est difficile pour moi de dire ce qui advient parce que je suis femme, ce qui vient de l'héritage du rang social, ce qui vient de mes choix passés, des accidents de la vie.
Je crois que malheureusement, une femme chef opératrice subit ces petits riens qui finissent par être pesants à la longue, comme être moins écoutée, avoir le même temps de préparation qu'un homme, mais mettre deux fois plus de temps à être entendue, même si elle emploie les mêmes mots.
Moi, j'ai continué ce métier en étant l'assistante de. Mais j'ai adoré ça. L'humour graveleux, les vannes à deux balles faisaient partie du folklore ambiant. Je mettais un point d'honneur à arriver en même temps que les équipes électriques à machinaux, à porter toutes mes caisses, être la plus rapide et la plus fiable possible. J'apprenais mon métier. Et entre chaque film plutôt rare, j'ai largement eu le temps de me remettre en question. Pas assez ceci, trop cela. Bien sûr que ma spécificité d'être une femme chef opératrice a toujours été prise en considération, en bien ou en mal. Il y a un certain nombre de films dits d'auteurs, plus ou moins ambitieux, qui constituent une part congrue du gâteau audiovisuel. Et cette part intéresse aussi certains hommes, heureusement. Et donc nous la partageons. Mais la différence, c'est que les hommes peuvent prétendre au reste du gâteau et nous, non, ou à peine.
Pas de film à gros budget, pas de série. Nous restons cantonnés au cinéma du genre cinéma d'auteur, les films de la diversité, les films en annexe 3, les premiers films. Franchement, je m'en plains pas. Hein. Personnellement, je suis contente des films pour lesquels j'ai travaillé. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices qui m'ont choisi. Mais n'empêche, dans ma tête, j'ai toujours des doutes et une question de légitimité. Je me sens pas à ma place, alors je fais tout pour prouver que je suis bien à ma place. Et puis aussi, toute l'organisation complexe et coûteuse pour pouvoir partir en tournage, tout en étant rassurée sur l'épanouissement de mon fils, non mais c'est un vrai plan de bataille.
Oui, bien sûr que nos métiers sont incompatibles avec une vie de famille selon le sens commun, comme beaucoup d'autres métiers passionnants en même temps. Et bien sûr qu'un père qui se consacre entièrement à sa passion ne souffrira jamais de l'opprobre général à la différence d'une femme.
Il dit que les dés sont faussés, qu'à talent égal, une femme ne fera pas la même carrière qu'un homme.
J'arrête là. Vous pouvez la retrouver du coup en intégralité sur le YouTube de la plateforme si vous souhaitez la regarder jusqu'au bout. Et je vous invite aussi à aller du coup sur le site de Femmes à la caméra, qui regroupe encore plus de témoignages sur la réalité de ces métiers. Juste pour vous dire que dans les grandes écoles de cinéma, il y a un peu plus de femmes que d'hommes en réalité. Il y a 55% d'étudiantes pour 45% d'étudiants. Et par contre, c'est une réalité qui ne se retrouve pas du tout ensuite dans le milieu professionnel. Enfin, il y a un début de carrière à peu près similaire, et ensuite ça baisse énormément pour les femmes, pour tout un tas de raisons. Bien sûr, des raisons de discrimination déjà à l'embauche directement sur les métiers techniques. Et ensuite, il y a aussi toutes les réalités de ce métier d'intermittente, de tournage, où on peut partir plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., qui font que, généralement, quand il y a des choix à faire dans la vie de famille, entre qui est-ce qui va poursuivre sa carrière, son métier, etc., qui est-ce qui va faire des concessions, bien, ce sont souvent les femmes qui s'arrêtent au moment où elles souhaitent devenir mère, et à peu près vers la trentaine, là, il y a carrément un décrochage hyper important qu'on voit sur les statistiques. Donc ça, c'était pour la première dimension de notre plan PAF Égalité. Ensuite, il y a une dimension qui est plutôt dans les projets, mais qu'on n'a pas encore pu mettre en œuvre, là, plutôt à cause d'un manque de temps et de ressources humaines, parce qu'on a une toute petite structure, peut-être que 2,5 salariés. C'est modeste ce qu'on fait avec nos petits moyens. Mais nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est une activité de mentorat. On souhaiterait que des femmes expérimentées, à la carrière avancée dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, puissent marrainer, du coup, des jeunes qui sortiraient d'école, qui seraient au début de leur carrière et qui pourraient avoir une sorte d'entraide entre femmes pour pouvoir progresser au mieux dans ces métiers qui sont difficiles, tant en termes de rythme, d'engagement, qui sont très prenants, et également en termes de stéréotypes sexistes qui sont quand même toujours très présents. Une dernière petite vidéo que je voulais vous montrer justement, c'est une vidéo du collectif 50-50 qui est sortie la semaine dernière. C'est juste un petit clip de 30 secondes sur les pourcentages de femmes dans nos métiers. Et donc le collectif 50-50, c'est un collectif de femmes, de réalisatrices ou professionnelles de l'audiovisuel. Elles font un travail vraiment intéressant. C'est aussi une très très bonne source de données. Elles font aussi une notion d'observatoire et des études qui justement peuvent chiffrer ce qui se passe dans nos métiers. Et elles ont aussi un autre dispositif intéressant qui est le livre blanc de 50-50, qui en fait regroupe les bonnes pratiques sur comment agir en cas d'agression sexuelle et sexiste en tant qu'employeur dans ces milieux-là, comment repérer les comportements à risque, comment en tout cas accompagner les victimes. C'est aussi une ressource très importante, avec aussi un appui juridique qui est hyper intéressant. Donc ce petit clip...
On en est où de l'égalité sur les prods en 2022?
Bravo, les réalisatrices ont 40% de budget de moins pour faire un film que les hommes.
Et bravo de ne laisser que 22,9% de femmes réaliser des longs-métrages. Yeah!
Merci encore pour les 4,5% de femmes machinistes dans notre beau métier.
On est passé à 23% de comédiens perçus comme non-blancs dans la fiction française.
Ouais, ça fera 23%. Hein.
On continue comme ça.
Grâce à la Bible 50-50, tous nos métiers peuvent participer au changement. Alors contribuons ensemble à des productions plus égalitaires.
Pour l'instant, est-ce que vous savez s'il y a d'autres des fédérations de ce type-là sur d'autres régions qui se saisissent de ce sujet-là?
Ben c'est vrai qu'on a des homologues dans les autres régions. Il y a Film en Bretagne, et Cyclic dans la région Centre-Val-de-Loire, mais qui sont des agences bien plus importantes que la nôtre. Du coup, je sais qu'ils mènent aussi des actions sur cette thématique-là. C'est vrai que nous, comme notre association a une portée régionale, nous, on essaye que ce soit aussi à portée régionale. Mais c'est comme tout à l'heure, je critiquais le centralisme parisien. Nous, on est un peu centraliste nantais. Donc on essaye d'aller plus loin. Mais... Oui, bien sûr. Le CNC... Ouais. Ils ont un très bon observatoire. C'est eux qui publient vraiment beaucoup de rapports sur ces questions-là qui sont passionnants. Enfin, qui sont justement le terreau qui nous permet après, nous, de penser des politiques pour lutter contre. Et ils ont notamment mis un dispositif que nous on valorise et qu'on a accueilli ici en région. C'est que maintenant, pour les sociétés de production qui veulent prétendre à une aide du CNC, les gérants de structures sont obligés de suivre une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et leur formation est super, parce que du coup, on a aidé à l'accueillir en Pays de la Loire, et elle est menée par l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui ont donc une équipe de juristes, d'avocates hyper pointues sur ces questions-là et qui sont top.
Qui sont au niveau national et qui sont en effet formidables.
Ouais. Emmanuelle Caillé, directrice de la Mutualité française Pays de la Loire.
En Pays de la Loire, c'est à peu près 5500 personnes qui sont employées par une mutuelle qui dépend du code de la mutualité et qui fait partie de la famille de l'ESS, avec les principes qui régissent sa gouvernance et son économie, notamment la non-lucrativité, un homme, une voix, etc. Et donc dans ce contexte, qui a l'air très beau sur le papier, il n'empêche qu'en termes de gouvernance, très naturellement, historiquement, à l'instar aussi de ce qui se passe dans une certaine partie du monde associatif, on avait quand même un gros décrochage entre ces valeurs affichées d'égalité et une gouvernance quand même plutôt masculine. Les choses bougent, mais elles bougent beaucoup moins vite qu'on aimerait qu'elles le soient. Et donc, bing, 2019, cette fameux texte qui impose 41% de femmes dans les conseils d'administration. Oh, super, comment on va faire? C'est possible. D'un coup, on découvre qu'il y a des femmes qui peuvent jouer un rôle dans la gouvernance mutualiste. Waouh. Bon. Alors, un peu rattrapé par la patrouille, mais pas que. Je pense qu'aussi, ça a participé à l'avènement d'une maturité aussi qui s'était mise dans les structures, de se dire, oui, on ne peut pas être à la fois s'engager sur des questions d'égalité, d'accès à la santé, d'une protection sociale ouverte à tous, si en même temps, on n'est pas en capacité nous-mêmes de faire bouger un peu les lignes. Alors nous, Mutualité Française, on est une petite organisation, on est une fédération de mutuelles, donc on représente en région Pays de la Loire les mutuelles de notre région et on dépend de la FNMF. Il ne s'agissait pas de nous d'aller donner des leçons aux mutuelles en disant bah, 41%, elles sont où vos femmes? Non. On a accompagné un peu la démarche de notre manière et on s'est rendu compte que les femmes qui siégeaient dans nos instances, on n'était pas trop mal, hein. On était à 50% sur le bureau et puis on était à 36% à peu près sur notre conseil d'administration. En 2017, c'était pas si mal au regard de certains enjeux. Après, quand on grattait un peu de voir quel poste était occupé par les femmes, là, pour le coup, c'est un autre sujet.
Pour atteindre ces objectifs, des outils ont été développés.
Des grosses mutuelles nationales comme des petites mutuelles locales ont chacune trouvé des leviers en fonction de leur taille et de leur capacité, de leurs ressources. Alors moi, je peux vous parler que de l'initiative qui est la nôtre, hein, Mutualité Française Pays de la Loire, où nous sommes, je dirais, réceptacle des élus que les mutuelles veulent bien nous confier. C'est-à-dire que nous, on représente des adhérents qui sont nos mutuelles. Et à ce titre-là, nos mutuelles participent à notre gouvernance, à notre conseil d'administration. Donc si vous avez très peu de femmes dans les mutuelles, vous aurez par ricochet très peu de femmes dans notre conseil d'administration. N'empêche qu'on avait une réflexion qui s'est menée d'ailleurs pas que par des femmes et des hommes, qui faisaient quand même le constat qu'on avait d'abord de la difficulté à mobiliser des femmes, probablement parce que dans notre manière de communiquer, de coopter les élus, on n'était peut-être pas suffisamment clair, limpide. Est-ce qu'on proposait des projets qui pouvaient correspondre aux appétences des uns et des autres? Donc on a un travail quand même en interne. Et puis un deuxième travail, là, c'était plutôt le constat des femmes qui étaient déjà en responsabilité ou qui étaient en devenir, c'est-à-dire qui allaient prendre des responsabilités, et qui constataient quand même qu'elles étaient souvent isolées, assez peu outillées à l'exercice du mandat, pas en termes de compétences, hein, plutôt en termes de posture, en termes de légitimité, en termes de capacité à se faire confiance, capacité à pouvoir dire les choses. C'est pour ça qu'on a monté en lien avec la structure qui s'appelle Mixity, un programme d'abord de formation, une formation que pour les femmes, et là on l'assume, hein, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont des lieux d'empowerment, où on a besoin d'être dans un environnement protégé pour progresser, c'était le cas, et puis il y a d'autres choses qui s'effectuent dans des milieux mixtes. Mais en tout cas, le choix a été fait de faire une formation d'abord que pour ces femmes qui portaient des mandats ou qui allaient porter des mandats. C'était une journée de travail collectif animée par deux formatrices. Elle a très vite débouché sur dire « Ok, on pose le constat, on a identifié les leviers pour retrouver notre place, avoir confiance, se sentir légitime, mais ça ne suffit pas. » Et donc a été mis en place conjointement par ces femmes et par les formatrices des ateliers de co-développement qui se sont menés pendant plusieurs années. Donc il y a eu deux groupes, donc c'est une dizaine de femmes à chaque fois, qui se réunissaient autant que de besoin. Donc assez régulièrement, quand même plusieurs fois de l'année. Et les ateliers de co-développement répondent à un processus particulier, assez normé, avec une des femmes qui expose un cas pratique, les autres se positionnent en réflexion, il y a de l'analyse, enfin voilà, c'est un format très particulier qui permet de déboucher sur des solutions et surtout de reprendre la confiance en soi, de confirmer par les autres qu'on est légitime. Voilà, c'est un peu ça le principe.
Vous appelez formatrice, j'ai lu coach.
Oui, coach, formatrice.
Non mais coach c'est intéressant parce que coach c'est l'idée d'entraîner.
Oui. Et puis c'est l'idée, il y a une durée mais en même temps c'est pas toute la vie. Quoi. C'est-à-dire que là c'est un dispositif qui a été mis en place par donc, formatrice, coach, elles font les deux de toute façon, sur un temps donné et après les femmes étaient en autonomie. C'est-à-dire que les ateliers de co-développement, elles les dirigeaient elles-mêmes. Hein. C'est 5-6, voilà, moi j'ai un sujet, j'aimerais bien qu'on le traite. Et elles se réunissaient, donc nous on mettait en place les conditions favorables pour qu'elles puissent se réunir et avancer sur leurs difficultés.
C'était des coachs, c'était volontaire que ce ne soit pas des hommes.
C'était comme ça, la rencontre a fait que, je ne sais pas si dans ce milieu-là il y a beaucoup d'hommes qui s'en emparent aujourd'hui, mais en tout cas ça allait bien aussi avec l'esprit dans lequel on a développé initialement les ateliers qui étaient quand même, voilà, avec cette technique de l'empowerment. Donc comment est-ce qu'un groupe minoritaire s'arme pour faire face à un groupe majoritaire. Et on peut considérer qu'il y a quelques années, on était un peu dans cet état d'esprit-là.
L'expérience des hommes aussi, ça serait aussi intéressant.
Bien sûr, mais on a tenté d'avoir l'expérience des hommes et quand même, on a fait un peu flop, c'est-à-dire qu'on a essayé ensuite, une fois que les femmes qui étaient en responsabilité se sentaient plus aguerries, plus sûres d'elles, pas pour prendre la place des hommes, hein, pour juste prendre la place qu'elles voulaient prendre et qu'on leur donnait. On a tenté de faire des groupes mixtes et bon, là, on n'a pas réussi. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on avait aussi atteint un degré de maturité intéressant et que finalement, voilà, on n'est pas obligé d'aller sur tous les combats. Nous, aujourd'hui, on a un conseil d'administration qui approche de la parité et on a un bureau qui est paritaire.
Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, justement, de prendre le temps, de prendre du recul et d'écouter un peu les autres et d'écouter les témoignages de ce qui se fait aussi. Parce que moi, j'ai toujours le nez dans le guidon. Et du coup, pour moi qui ai 57 ans, pour moi, c'était de l'acquis. Et je me dis que on est encore loin du compte.
Alors moi, je n'ai plus 57 ans depuis longtemps. Mais j'ai trouvé intéressant de voir justement tous ces petits jeunes qui se remuent là.
Écoute, si ça va pour tout le monde et comme il est 16h, je pense, c'est à peu près 00, non ?
Waouh,
Quel timing, n'est-ce pas ?
On s'arrête là ? Ouais ? Très bien, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre un reportage de Michel Sourget d'Alternantes sur les actions développées par la Mutualité française des Pays de la Loire pour impulser la parité dans ses instances de gouvernance. L'ensemble des 3 reportages réalisés à l'occasion de cette journée spéciale de la CRES sur l'égalité femmes-hommes dans la culture est à retrouver sur le site internet de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. C'est cette même FRAP qui vous propose maintenant d'écouter 5 minutes de reportage pour le programme Pensée locale dédié cette semaine à l'Atlas de la biodiversité de Nantes Métropole. Tout de suite après, vous pourrez retrouver Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie
sociale, économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Nantes Métropole vient de publier son atlas de la biodiversité, un inventaire de toutes les espèces, plus de 4000 d'arbres, de plantes, d'oiseaux, de mammifères ou encore de poissons que l'on peut trouver dans les 24 communes de la métropole. Pour ce faire, la collectivité a fait appel à des associations naturalistes auprès desquelles elle a recueilli plusieurs dizaines de milliers de données. Dans Pensée locale, cette semaine, nous partons à la rencontre de Barbara Gérard, chargée de mission à la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. C'est elle, avec son équipe, qui s'est chargée de cartographier et de répertorier les espèces de poissons présents sur le territoire métropolitain. Nous la rencontrons à Couéron, au bord d'un ruisseau appelé le Drill.
On est sur ce qu'on appelle les coulées vertes. Donc entre deux zones urbaines, on a quand même des secteurs qui sont un petit peu préservés, dans lesquels en général les communautés ont aménagé des espaces de promenade, des espaces de paysagers. Et de plus en plus, on se rend compte que ces espaces-là, ils ont vraiment un rôle à jouer sur la préservation de la biodiversité, qui plus est dans un environnement urbain où ça devient des poumons. Quand on est venu la première fois expertiser ce ruisseau, on ne savait pas trop ce qu'on allait y trouver. Et puis bien souvent, les cours d'eau métropolitains, ils sont un petit peu altérés par les pollutions, ils sont altérés par la présence des routes qui bloquent un peu les poissons dans leur remontée des ruisseaux. Et ici, on a eu la bonne surprise de trouver une espèce qui est typiquement ligérienne, donc le barbeau fluviatil. Donc c'est une espèce qui apprécie les courants, les rivières avec des courants, mais qui a aussi besoin, dans d'autres phases de sa vie, de zones très calmes. Et donc là, on s'est rendu compte que cet espace-là, il servait à la reproduction de cette espèce-là. Donc ça, c'est hyper intéressant dans un milieu très urbain, où en plus, on a une zone qui est quand même assez connue, c'est la zone d'activité d'Atlantis. Donc on se rend compte vraiment qu'on a un patrimoine, il faut y veiller. Et pour autant, voilà, on est quand même dans un secteur urbain, on peut faire cohabiter tout ce monde-là.
Donc là on avance et on entend de plus en plus la route qui doit passer pas loin.
Ouais, c'est ça. Là du coup on arrive à la jonction entre une zone humide et une route départementale. Souvent, la route elle constitue une zone un peu un goulot d'étranglement. Et derrière, il peut y avoir soit des chutes d'eau importantes, ce qui fait que les poissons ont du mal à remonter. Et puis, les collectivités, maintenant, elles prennent un petit peu plus ça au sérieux. Ça fait partie maintenant des usages. Hein. Quand on met un pont routier, on fait en sorte de faire passer pas que les voitures.
Et justement, c'est aussi tout l'intérêt de cet atlas que de remonter aux collectivités en charge de cet aménagement, ce qui pourrait être amélioré aussi.
C'est ça. L'idée, c'est pas juste de faire une jolie carte. Au niveau de la Loire-Atlantique et de la métropole, on a quand même des cours d'eau qui souffrent de certaines pressions. Donc, évidemment, l'urbanisme, c'est quand même une pression forte sur les milieux, puisqu'on va avoir des problèmes d'érosion, des problèmes des fois de macro-déchets. Il y a des secteurs et des ruisseaux qui sont malheureusement jonchés de restes de vie urbaine. Et puis, on va avoir dans d'autres secteurs des problèmes plutôt liés à l'agriculture, dans certains secteurs où on a des pratiques qui sont un petit peu intensives. Et puis on a aussi au contraire des choses qui sont positives. Et donc on a des secteurs de marais qui peuvent bien fonctionner quand on a des pratiques, par exemple agricoles, qui sont vraiment dans le respect des sensibilités du milieu, où on a des belles cohabitations. Et puis on a, à l'inverse, on a dans les villes, dans les zones assez urbaines, des secteurs qui ont été préservés justement parce qu'ils ils jouent un rôle de poumon vert, et on se rend compte que quand on redonne un peu de place à la nature, elle le rend assez vite aussi pour certains cas.
Un reportage de la rédaction de Sun.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.